Radio Prague, les informations. Bonjour, la coalition a trouvé un compromis pour sortir de la crise gouvernementale. Le président de la République, Václav Klaus, s'est dit satisfait des résultats de ces négociations. Et puis Znojmo a été élu ville historique tchèque de l'année 2010. La coalition gouvernementale a donc trouvé un consensus sur le remaniement du cabinet du Premier ministre Petr Nečas. À l'issue de nouvelles longues négociations, lundi soir, le chef du gouvernement annonçait les changements acceptés par les trois partis de la coalition, le Parti civique démocrate, Top 09 et Affaires publiques. Ancien chef de l'unité de lutte contre le crime organisé, Jan Kubice, sans parti, succédera à Radek Jön des Affaires publiques au poste de ministre de l'Intérieur. Radek Jön conserve cependant sa position de vice-premier ministre et sera désormais chargé de la lutte contre la corruption. Démissionnaire, le ministre des Transports, Vid Bartha, Affaires publiques également, sera lui remplacé par son vice-ministre actuel, Radek Smerda, tandis que le ministre de l'Éducation, Joseph Dobesch, toujours Affaires publiques, reste en fonction, et ce, bien que le premier ministre ait souhaité son départ suite à un scandale de corruption au sein des Affaires publiques qui est à l'origine de l'actuelle crise gouvernementale. Plus de détails sur ce compromis trouvé par la coalition gouvernementale dans les faits-événements. Le président de la République, Václav Klaus, qui effectue une visite de 2 jours dans la région de Liberec, en Bohême du Nord, s'est félicité du résultat des négociations menées lundi par la coalition. « Je souhaite que plus rien ne menace cet accord. Je suppose néanmoins que ce dernier doit encore être approuvé par les groupes parlementaires des trois partis politiques », a déclaré le chef de l'État en indiquant qu'il était prêt à nommer cette semaine les nouveaux ministres. Jusqu'à présent, le chef de l'État avait refusé d'entériner les départs des trois ministres des Affaires publiques. Václav Klaus exigeait de la part du gouvernement un plan de sortie de crise avant d'accepter tout remaniement. Et puis malgré ce compromis trouvé par les trois partis de la coalition gouvernementale, un vote sur une motion de censure devrait bien se tenir à la Chambre des députés mardi prochain. Ce mardi, la présidente de la Chambre basse du Parlement a convoqué une séance exceptionnelle pour la semaine prochaine. La demande de vote a été déposée lundi, rappelons-le, par le Parti social-démocrate, principale formation de l'opposition. En comptant les communistes, l'opposition ne dispose toutefois que de 82 députés, alors qu'un minimum de 101 voix est nécessaire pour pouvoir adopter la motion de censure et ainsi faire chuter le gouvernement. Rappelons que la coalition avait déjà résisté à une première motion de censure en décembre dernier. Celle-ci avait alors été déposée suite à l'annonce de la démission du ministre de l'Environnement de l'époque, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption. L'exposition de l'épopée slave, œuvre monumentale d'Alphonse Mucha, a été rouverte au public ce mardi à Moravski Krumlov, en Moravie du Sud, après la traditionnelle fermeture hivernale. Seules 15 des 20 toiles sont toutefois présentées, les 5 autres étant exposées depuis peu à la galerie de la ville de Prague. En octobre prochain, les 15 tableaux devraient être transférés à Prague. La municipalité de Moravski Krumlov entend cependant à ce que les 20 tableaux retraçant les grands moments de l'histoire des peuples slaves lui soient ensuite de nouveau prêtés dès 2014. D'ici là, le château et l'espace d'exposition seront modernisés. Rappelons que l'épopée slave fait l'objet depuis plusieurs mois d'un important litige relatif à ses droits de propriété entre la petite ville de Moravski Krumlov, où elle est exposée depuis plus de 50 ans, et la galerie de la ville de Prague qui souhaite la récupérer. La ville de Znojmo en Moravie du Sud a été élue ville historique tchèque de l'année 2010 ce mardi au château de Prague. La ville, centre d'une région viticole, a été récompensée pour l'entretien de son patrimoine. Le titre de ville historique est décerné en République tchèque depuis 1994. L'année dernière, c'est la ville de Beroun, située en Bohême centrale à une vingtaine de kilomètres au sud de Prague, qui avait été récompensée. Cette année, Znojmo a devancé les villes de Polička en Bohême de l'Est et de Prachatice en Bohême du Sud. On termine avec un mot de météo. Comme ces derniers jours, le temps reste très largement ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Mercredi, jour de la fête des Marcella, Marcel en français, les températures sont stables et restent supérieures aux normales saisonnières puisqu'elles varient entre 19 et 23 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore en notre compagnie et celle d'Anna Kubishta qui prend tout de suite le relais.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Au programme du jour, nous reparlerons de la crise gouvernementale dans le pays, une crise qui pour l'heure semble avoir trouvé une forme d'issue. Les détails en début d'émission. Et puis nous vous parlerons du 46e festival du film de Carlo Vivari. Certes, celui-ci ne commence qu'en juillet, mais déjà quelques informations sont à glaner auprès des organisateurs. En deuxième partie d'émission, ce sera la rubrique Panorama, comme tous les mardis. Bonne écoute de ce programme. Lundi soir, les difficiles négociations sur le remaniement ministériel menées depuis plus d'une semaine par les trois partis de la coalition gouvernementale ont enfin abouti. C'est l'ancien chef de l'unité de lutte contre le crime organisé, Yann Koubetse, sans parti, qui devrait désormais occuper le poste clé du ministre de l'Intérieur. Il s'agit là du principal changement au sein du gouvernement, car deux ministres du parti Affaires publiques, secoués début avril par un scandale de corruption, ne quitteront finalement pas l'équipe politique du premier ministre Peter Nechas. Magda Hrozenkova fait le point de la situation. Petit rappel des faits, la crise gouvernementale est en cours depuis la démission le 8 avril dernier du très influent ministre des Transports, Vid Bharta, accusé par ses collègues de pratiques plus que douteuses au sein de son parti Affaires publiques. Le premier ministre Peter Nechas a ensuite demandé le départ de deux autres ministres du parti Affaires publiques supposés être liés à la société de sécurité Abel, dont Vid Bharta est le fondateur et qui aurait ainsi infiltré le milieu politique tchèque. À présent, il ne reste plus grand-chose de ce projet radical qui devait sauver la face au gouvernement. Vid Bharta sera remplacé au poste du ministre des Transports par son vice-ministre Radek Smerda. Le parti Affaires publiques croit tout de même au retour de Bharta au gouvernement. Katarzyna Klasnova est vice-présidente de la Chambre des députés.
C'était une solution provisoire qui a été choisie avant que Vid Bharta ne soit blanchi des accusations. C'était une possibilité parmi d'autres.
Le ministre de l'Éducation, Joseph Dobesch, ancien employé de la société ABL, garde quant à lui son fauteuil ministériel. Une décision que le Premier ministre a qualifiée de compromis politique, en ajoutant que Joseph Dobesch devrait mener à bien le projet du baccalauréat national. Nous en arrivons au poste de ministre de l'Intérieur qui était au cœur des négociations. Il sera désormais occupé par Yann Koubetse qui n'appartient à aucun parti politique. Mais ceux qui attendaient voir son prédécesseur, le président d'Affaires publiques et ancien journaliste d'investigation Radek Yon, tombé de son piédestal, seront déçus. Le chef du gouvernement étant à présent convaincu que Radek Yon n'était pas impliqué dans le scandale de corruption au sein des Affaires publiques, lui confie le poste de vice-premier ministre chargé de lutte contre la corruption. La nomination de Yann Koubetse, 57 ans, lui aussi copropriétaire d'une agence de sécurité, a suscité de vives réactions, notamment au sein de la social-démocratie, premier parti de l'opposition. Elle accuse Koubetse d'avoir manipulé l'opinion publique lorsqu'en 2006, quelques jours avant la tenue des élections législatives, Yann Koubetse avait publié un rapport sur la présence supposée du crime organisé au sein des plus hautes sphères d'État, un rapport qui pointait du doigt des dirigeants sociaux-démocrates au pouvoir. Pour le Premier ministre Peter Nechas, ce remaniement n'est pas définitif. D'autres changements au sein du gouvernement devraient suivre d'ici le mois de juin.
À ce moment-là, le gouvernement soumettra à la Chambre des députés les lois clés relatives aux réformes et demandera la confiance des députés.
Rappelons que la social-démocratie qui qualifie l'actuel remaniement de mauvaise plaisanterie a déjà déposé la motion de censure contre le gouvernement Nechas. Le vote devrait avoir lieu mardi prochain. Du 1er au 9 juillet 2011 se déroulera le 46e festival international du film de Carlo Vivari, l'équivalent de Cannes, en République tchèque. Même si les organisateurs attendent que le grand rendez-vous français du 7e art se soit déroulé pour présenter leur programme définitif, certaines choses sont déjà connues, comme l'explique le nouveau directeur de la programmation Karel Hoch, qui remplace à cette fonction Eva Zaorarova, devenue conseillère de la programmation.
On a un grand plaisir de partager une information très, très chère pour nous, que le président de la jury ce sera le réalisateur hongrois István Szabó, qui est très connu. Et en fait, ce ne sera pas la première fois pour M. Szabó de venir à Carlo Vivari. La dernière fois, c'était en 2002, quand il est venu avec un acteur suédois, Stellan Skarsgård, à présenter son film. Et maintenant, Monsieur Sabot va juger avec ses collègues la sélection de 12 films et nous sommes très heureux. On va avoir aussi des rétrospectives et hommages très intéressants.
Par exemple,
on est très heureux de pouvoir accueillir un jeune réalisateur canadien, québécois, Denis Villeneuve, qui va présenter 4 longs métrages qu'il a fait et aussi son dernier film qui a été nominé pour l'Oscar, qui s'appelle Incendie. Et on va aussi organiser une rétrospective, hommage à Samuel Fuller, qui est un réalisateur américain, mais très populaire en France aussi, parce qu'il a vécu pendant les années 70 à Paris. Et en présentant 10 ses films, par exemple Pick Up on South Street, The Big Red One, Shock Corridor, Naked Kiss, Steel Helmet, ce sont les films cultes maintenant, pas seulement en France.
Puis vous avez alors aussi une rétrospective, en tout cas une présentation du cinéma grec, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, parce que surtout les derniers 3 ans, il y a beaucoup de films très intéressants qui viennent de la Grèce. On pouvait les voir au grand festival comme Venise, Cannes, par exemple Attenberg qui a gagné le prix pour la meilleure actrice l'an dernier, ou il y a un film Dogtooth qui a été nominé pour l'Oscar aussi cette année et il a gagné le prix à Cannes pour le meilleur film en certain regard. Plusieurs réalisateurs vont venir et vont participer dans un panel qu'on va organiser avec eux.
Est-ce que vous allez présenter le film de Václav Havel, le premier film Otkazeni sur le départ en français?
Oui, on va présenter le premier film de Václav Otkazeni parce que, si je ne me trompe pas, ça sera la première internationale. Il y a beaucoup de notre collaborateur de l'étranger qui nous pose demande et qui ont très envie de le film voir, donc sera présenté entre la représentative sélection de cinéma tchèque.
Une dernière question, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt, on est en avril, vous n'avez pas pu encore présenter tous les films, quand est-ce qu'on pourra en savoir un peu plus sur les films, en tout cas de la compétition principale par exemple?
Donc la compétition principale avec 3 autres compétitions, on va publier les films pendant la 12e conférence de presse qui se tiendra le 15 juin. Donc en ce moment, tout le programme sera publié et il y aura aussi des communiqués de presse avant cette conférence où on va partager l'information sur les autres films de programme hors concours.
Vous attendez Cannes en fait, hein?
Bien sûr, on attend d'apporter à Carlo Vivari à peu près 10 à 15 films de Cannes, donc pour qui ce sera la deuxième présentation au festival, donc c'est assez spécial pour nous.
Voilà, c'est avec Karel Hoch, nouveau directeur de la programmation du Festival de Carlo Vivari, que s'achève cette première partie d'émission. Tout de suite, un bilan des recherches sur le genre, les gender studies, en République tchèque et en Europe centrale plus généralement. C'est ce que propose une journée d'études et de rencontres entre chercheurs organisée au CEFRES ce mardi 19 avril. Maxime Forest, docteur en sciences politiques, est un des co-organisateurs de cette journée. Il a répondu aux questions d'Anne-Claire Veluire.
Panorama.
Panorama.
Maxime Forest, bonjour. Vous êtes chercheur en postdoctorat à l'Université Complutense à Madrid, en Espagne. Vous travaillez sur le projet QUING, Quality in Gender et plus Equality Policy. Vous organisez au CEFRES à Prague une journée d'études sur l'état de la recherche sur le genre dans les sciences sociales. Alors, où en est la recherche sur le genre dans les sciences sociales en République tchèque aujourd'hui? C'est ce que vous allez essayer de discuter pendant cette journée d'études. Alors, pour commencer, on peut demander à partir de quand le genre est devenu un sujet d'étude dans les sciences sociales ici en République tchèque?
Alors c'est un thème qui a émergé relativement rapidement après 1990. D'abord sur le terrain un peu de la littérature grise, c'est-à-dire non strictement scientifique, mais produite par des organisations non gouvernementales, Par exemple, le centre Gender Studies fondé par Jirgina Shiklova, mais donc fondé par une sociologue avant tout, donc avec déjà une prétention quand même à produire un savoir de qualité, et avec des financements de projets relativement brefs fournis par des fondations privées, hein, comme dans d'autres domaines où sont actives les ONG. Ensuite, d'ailleurs à l'initiative encore une fois de Jirgina Shiklova, on est passé vers le milieu, la fin des années 90, sur le terrain universitaire proprement dit, en sociologie en particulier, et en sociologie politique, avec la fondation d'un premier département à l'université Charles, à Prague, et cette consolidation dans le terrain académique, elle s'est faite dans d'autres universités, en histoire à Pardubice, autour de Milena Lenderova, à l'université Masaryk de Brno, également dans d'autres universités avec de plus petites unités, et puis à la faculté des sciences humaines, donc plus tardivement établie à l'université Charles, et où là, un département d'études de genre assez important. Ça s'est fait également à l'Institut de sociologie, avec l'émergence d'un département genre auprès de l'Académie des sciences. Donc ça s'est fait sur, on va dire, sur la deuxième moitié des années 90, mais sur assez rapidement dans l'ensemble.
À l'occasion de cette journée d'études, vous allez présenter plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quels sont les centres d'intérêt de ces projets ?
Alors, dans le cadre de cette journée d'études, on va essayer de faire un point sur les grandes évolutions qu'ont marqué sur ces 20 ans ou 15 ans, on va dire, l'évolution des travaux sur le genre. Alors, en République tchèque, plus largement en Europe centrale, et puis avec comparant un peu ce qui se passe en France, ce qui s'est passé sur les mêmes années. Et on le fait en particulier en présentant les gros projets européens auxquels ont contribué des chercheuses tchèques ou slovaques. On en présente demain trois, qui sont des projets des années 2000, qui pour la plupart se sont terminés soit en 2008, soit y compris en 2011, qui portent alors l'un sur les politiques d'égalité. Alors, quels efforts sont faits dans la sphère publique en termes d'action publique pour mettre hommes et femmes à égalité dans tout un ensemble de domaines. Ça, c'est l'un des projets. Il y en a un autre qui s'appelle Knowing, donc qui portait bien son nom. Hein. C'était sur l'économie de la connaissance. Donc là, les femmes dans la production scientifique, notamment en République tchèque. Et puis un troisième projet qui s'appelle FEMTIT, projet plus sociologique qui portait sur différents domaines, notamment la question de l'intégrité physique des femmes, ce qu'on appelle en anglais la bodily integrity, donc ça inclut la prostitution, et qui porte un intérêt particulier au mouvement de femmes en Europe depuis les années 70. Hein, donc c'est un projet également important. Et ce qu'on va essayer de souligner aussi, c'est un peu le changement d'échelle des recherches sur le genre, en République tchèque notamment, avec le passage de cette première phase que j'évoquais de petits projets où on passait de la sphère des organisations non gouvernementales vers la sphère académique à aujourd'hui des projets sur financement européen. Hein, depuis 2004, qui nécessitent des capacités importantes en termes de recherche, des gros investissements aussi, puisque ce sont des projets cofinancés, il faut avoir des capacités soi-même, et puis une tendance à fonctionner par projet qui s'est institutionnalisée, y compris au niveau national. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une agence de moyens en République tchèque qui fait des appels à projets et qui finance la recherche sur des programmes pluriannuels. Donc ça concerne également les recherches sur le genre, et on va essayer de voir est-ce que ça constitue plutôt une opportunité, ou est-ce que le tarissement de certaines sources de financement, finalement peut-être plus accessibles sur des projets plus courts, a engendré une baisse en termes de production scientifique. Donc on va essayer un peu de répondre à ces questions en prenant l'exemple de ces différents projets.
Alors quelles sont les disciplines qui ont le plus intéressé, on va dire, les recherches sur le genre pendant ces 15 dernières années ? Est-ce que vous avez par exemple quelques types d'études qui ont marqué la recherche tchèque sur le genre depuis 90 ?
Comme je vous le disais, c'est un intérêt qui est né plutôt sur le terrain de la sociologie dans un premier temps, avec différents sujets, sociologie des professions, les thèmes de conciliation vie familiale, vie professionnelle, sociologie des métiers notamment d'enseignants, des métiers scientifiques, qui ont été travaillés par différentes équipes, notamment auprès de l'Académie des sciences. Dans une moindre mesure, la question de la représentation des femmes en politique, qui a amené également un certain nombre de travaux, l'action publique, en faveur de l'égalité homme-femme aussi, notamment dans le cadre du suivi du processus d'adhésion qui nécessitait d'accumuler un certain nombre de données sur ce sujet. C'est un petit peu moins le cas maintenant qu'on a passé cette phase-là, hein, qu'on est dans l'après 2004. Et puis ça s'est développé également en histoire, je dirais assez logiquement, parce qu'il y a d'abord sous un angle peut-être biographique, en mettant au jour, comme ça s'est produit finalement dans l'histoire des femmes dans les années 70-80, en mettant au jour des personnages féminins qui avaient été un petit peu occultés par l'historiographie classique. Et singulièrement ici par l'historiographie sous le communisme. Donc on met en avant certains personnages féminins. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés également dès les années 90 sur la sociabilité féminine, notamment dans les milieux nationalistes tchèques à la fin du 19e siècle, en quoi les femmes ont contribué à la renaissance nationale tchèque. Des travaux ont été menés également sur l'accès à la citoyenneté politique, hein, donc jusqu'au seuil des années 20, avec dans un premier temps un intérêt moindre pour les périodes plus récentes. Mais c'est quelque chose qu'on notait dans d'autres espaces de la recherche historique ici, c'est-à-dire finalement le fait de se saisir plus tardivement de tout ce qui concernait la période de l'entre-deux-guerres. Ça a commencé à être fait par la suite. Et puis la période communiste, et ça c'est un intérêt véritablement récent, qu'on trouve par exemple dans un projet à la FHS auprès de l'Université Charles, qui s'intéresse au changement dans la culture de genre pendant la période communiste, sur les représentations liées au rôle des hommes et des femmes. Et là, il y a des choses tout à fait passionnantes à travailler qui n'avaient pas été faites. Hein. Et notamment, on avait eu tendance à prendre la période communiste comme un bloc qui avait certes permis aux femmes d'accéder au travail de masse, à l'éducation supérieure et au mandat politique à travers des quotas, mais on se posait finalement pas tellement de questions sur les ressorts de tout ça, l'influence sur la situation des femmes concrètement, éventuellement sur les mobilisations politiques de femmes, comme ça a eu lieu pendant le printemps de Prague, et qui ont été relativement peu travaillées par des chercheuses tchèques ou chercheurs tchèques jusqu'à présent, et davantage par des étrangers. Mais c'est quelque chose qui est en train également d'évoluer. Puis ça s'est ouvert récemment à un plus grand nombre de choses encore, en y incluant la question de l'homosexualité, les cultures queer, etc., etc., c'est-à-dire en couvrant petit à petit tout le champ de la recherche sur le genre tel qu'on peut le voir ailleurs, mais avec un nombre d'acteurs qui est celui de la recherche tchèque, donc qui est un peu moindre.
Vous parlez maintenant de grands projets européens où des acteurs doivent se rassembler, être en contact pour mettre en place des projets plus colossaux, disons. Mm-hmm. Est-ce que c'est un moyen pour la recherche tchèque de rattraper son retard, ou est-ce que c'est justifié de parler de retard, ou est-ce qu'elle en est par rapport à d'autres pays de l'Union européenne dans le domaine du genre?
Alors là, tout dépend finalement du pays, des pays auxquels on se réfère. Moi, j'aurais tendance à pas parler en particulièrement de retard. Hein. Il y a peut-être une perception de soi, des fois, dans la recherche en sciences sociales en Europe du centre-est, qui a tendance à mettre en avant comme ça une espèce de complexe de rattrapage, un petit peu. Si on compare avec la situation de la France, par exemple, on peut pas vraiment parler de retard, ni en termes véritablement chronologiques, hein, ni en termes, je dirais, de d'institutionnalisation. En France, les recherches sur le genre, sans utiliser le mot d'ailleurs, c'était les recherches sur les femmes dans un premier temps, et d'ailleurs on n'a toujours pas le droit d'utiliser le mot normalement en France, d'après la commission sur les néologismes auprès du Premier ministre, y compris dans le domaine de la recherche, hein, on doit parler de rapports sociaux de sexe au mieux, au pire. Donc c'est ce premier élan, il a eu lieu au début des années 80, mais il est assez vite retombé avec la constitution d'un petit nombre d'équipes de recherche, qui a été compensé par le fait qu'il y a beaucoup de sociologues en France et de socio-historiens et historiennes, et qu'un grand nombre d'entre eux, également sur le terrain de l'anthropologie, sont intéressés à la question du genre, mais à titre individuel pratiquement, et non pas dans le cadre de véritables équipes. On n'a pas vu émerger en France jusqu'à aujourd'hui de diplômes véritablement sur les questions du genre, alors qu'ils ont émergé dès la fin des années 90, le début des années 2000 en République tchèque. Hein. Donc c'est un nombre d'acteurs plus important en France, certes, mais une institutionnalisation qui se fait à peu près au mieux au même rythme en France, hein, et qui finalement se trouve aujourd'hui dans un contexte européen où on se retrouve avec les mêmes questions posées à des échelles différentes entre les deux pays, mais avec les mêmes questions. Comment mettre en place des collaborations entre universités pour être capable de mener de grands projets et de se lier à des projets européens? Comment on finance la recherche au niveau national? donc par des agences de moyens, ce que fait l'Agence nationale de la recherche en France et la Grantova Agentura České republiky ici. Et donc on est sur des processus qui sont à peu près les mêmes et qui ont tendance à encourager la pluridisciplinarité, etc. Donc voilà, en France, les évolutions sont relativement récentes. C'est la naissance du programme Présage à Sciences Po Paris, par exemple, qui prétend intégrer le genre désormais dans tous les enseignements, enfin tous les niveaux d'enseignement à Sciences Po Paris. Mais c'est une évolution qui date de 2010. Hein, donc j'aurais tendance à pas parler de retard de l'un sur l'autre, mais à des problématiques communes affrontées à des échelles différentes, hein, en fonction de l'état de la recherche dans les deux pays.
C'était Maxime Forest, docteur en sciences politiques. Il répondait aux questions d'Anne-Claire Huluire dans le cadre de la rubrique Panorama. C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Évidemment, vous pouvez retrouver tous ces sujets en podcast, en streaming et également en retranscrit sur notre site internet le www.radio.cz. Bon vent.